VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du 29 mai 2017, en direct de Washington, Idrissa Seludia et Arnold Butson. Pour commencer, les titres.
Au Niger, deux policiers et un civil tués dans une nouvelle attaque près de la frontière avec le Burkina Faso.
En République centrafricaine, l'ONU tire de nouveau la sonnette d'alarme sur la résurgence mortelle des tensions ethniques et religieuses.
République démocratique du Congo, lancement hier à Paris d'un directoire national congolais pour une transition sans Kabila.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma échappe encore à une motion de défiance.
Ici à Washington, le président Donald Trump qualifie de gros succès pour l'Amérique sa récente tournée au Moyen-Orient et en Europe.
Pour sa part, la chancelière allemande Angela Merkel avertit que les Européens doivent désormais prendre leur destin en main.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Niger, le ministère de l'Intérieur a indiqué hier que deux policiers et un civil ont été tués samedi soir dans une attaque probablement terroriste contre un poste de police près de la frontière du Burkina Faso. Les précisions de Jean-Roger Bion.
L'attaque menée par des hommes armés a visé samedi tard dans la soirée un poste de police de la région de Tillabéri, situé à 10 km de la frontière avec le Burkina Faso. Le bureau du commissaire de police où étaient stockées des armes a été incendié et plusieurs armes emportées par les assaillants qui ont également endommagé 5 véhicules, dont un de la police et 3 appartenant à des policiers, selon les autorités. Les assaillants ont pris la fuite vers le Mali voisin, annonce l'AFP, qui cite une source sécuritaire. Écumées par des bandes armées terroristes, les régions nigériennes de Tillabéri et Tawa, proches du Mali et du Burkina, sont considérées comme très dangereuses. Niamey a d'ailleurs décrété depuis le 3 mars l'état d'urgence dans la région. Une dizaine de marchés ruraux ont été fermés. La circulation de voitures et de motos dans plusieurs zones de l'ouest ont été interdites. Par ailleurs, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de créer une force tripartite sur leurs frontières communes en passe de devenir un sanctuaire de groupes terroristes et de criminels en tout genre. Mais elle n'a pas encore été mise sur pied.
Les Nations Unies ont condamné hier les dernières violences en Centrafrique, dénonçant une résurgence des tensions ethniques et religieuses qui ont déjà fait plusieurs centaines de morts depuis le début du mois. Le coordonnateur humanitaire de l'ONU en RCA, Najat Rochdi, estime que ce genre d'attaques ne devraient plus avoir leur place en République centrafricaine où l'on cherche à panser les blessures du passé. Et Madame Rochdi a appelé toutes les parties à cesser immédiatement ces exactions et à s'engager de nouveau dans le dialogue pour la paix.
République démocratique du Congo, lancement hier à Paris par les leaders politiques congolais d'un directoire national pour une transition sans Kabila. Le président congolais, en théorie, ne peut pas se succéder à lui-même, mais l'accord du 31 décembre 2016, censé ouvrir la voie aux élections, continue de connaître des difficultés dans sa mise en œuvre. Écoutons Annie Mishimba Makinu, vice-présidente du directoire national pour une transition sans Kabila.
Notre plan, c'est déjà de réunir, de sensibiliser les Congolais à venir nous rejoindre dans ce directoire pour que nous puissions mettre en place des idées et mettre des stratégies et évincer Kabila du pouvoir. Parce que de toutes les façons, il est maintenant illégitime, illégal. C'est un ex-président, ce n'est plus un président pour nous en fait. Donc nous voulons emmener le Congolais à la conscientisation, à propulser, à booster le Congolais afin qu'il comprenne les enjeux qu'il y a derrière. Il faut qu'il redevienne souverain, il faut qu'il devienne décideur de son avenir. Et nous savons qu'ensemble, que la force, la synergie, la dynamique d'un peuple, c'est une arme en fait. Donc nous, on a l'arme, notre arme, c'est le peuple. Et le Congolais doit s'approprier vraiment la Constitution, vraiment s'approprier cet article 64 qui dit qu'on ne peut pas se laisser gouverner de force.
Annie Mishimba Makinu, vice-présidente du directoire national pour une transition sans Kabila, jointe à Paris.
En République démocratique du Congo même, début hier, à Kinshasa, de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs. Mais la première semaine ne concerne que 4 des 24 communes que compte la capitale. Le président Joseph Kabila s'est enrôlé en premier à 7h heure locale à l'école primaire de l'Institut de la Gombe au centre-ville. Mais au premier jour de cette opération, quelques difficultés ont été signalées, comme nous le dit dans ce reportage Gino Reema de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Ces bruits ne proviennent pas du marché Gambela, c'est l'ambiance qui a régné ce dimanche au centre d'enrôlement à Listandolo. Les étudiants ont sémé les désordres parce qu'ils voulaient s'enrôler en premier. Ils ont ainsi empêché d'autres personnes d'accéder au centre.
La lenteur, c'est par rapport aux étudiants qui veulent vraiment qu'ils prennent d'abord, après les gens. C'est là où il y a au moins la lenteur.
Sekinoa propose la mise en place d'un autre centre sur le site pour les étudiants.
Normalement, il a fallu qu'on donne les étudiants l'air sale à part. Parce que s'il y a les désordres, il y a aussi les gens qui n'arrivent pas à prendre la case par rapport aux étudiants. C'est toi qui es chargé de la sécurité, mais ils n'arrivent pas à organiser. S'ils peuvent voir au moins qu'ils séparent les étudiants avec la population, ça ira moins bien.
Cette situation a causé une lenteur dans la délivrance de cartes. Jusque midi, pas plus de 20 personnes n'ont reçu leur carte d'électeur. Fatiguées d'attendre longtemps et vu que la situation ne s'améliorait toujours pas, cet autre Kinois a tout simplement choisi de rentrer chez lui et revenir un autre jour.
Il y a vraiment des désordres partout, il y a des gens qui chantent. Bon, moi je vais retourner à la maison. Moi, je vais repasser demain, j'espère.
Si l'enrôlement a commencé à Lista, il n'a pas commencé dans d'autres centres à Barumbu, au complexe scolaire Stella et Gamma, qui doivent servir de centres d'enregistrement. L'enrôlement n'a pas débuté. Selon les informations reçues sur place, c'est le lundi qu'ils vont démarrer, d'abord avec la formation des agents de la CENI.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Donald Trump a renoué avec le Washington qu'il avait laissé derrière après sa grande tournée au Moyen-Orient et en Europe, qu'il a qualifié de gros succès avec de grands résultats pour l'Amérique. Dès dimanche matin, M. Trump s'est remis à attaquer les médias et à fustiger leurs informations, liant certains de ses proches, dont son gendre Jared Kushner, à l'enquête sur leur lien avec la Russie. Pour lui, il ne s'agit toujours que de la fabrication de la part de l'ennemi, qu'est la presse.
En Europe, les réactions des leaders à Berlin et à Paris notamment, et aussi d'une bonne partie de la presse, sont différentes de celles de M. Trump et de la Maison-Blanche sur sa récente visite. En Allemagne, par exemple, la chancelière allemande Angela Merkel a exprimé publiquement ses craintes sur les menaces actuelles posées à la traditionnelle alliance occidentale par la présidence de Donald Trump et le Brexit. Elle a notamment déclaré: nous, Européens, devons prendre notre destin en main. Nous devons nous battre pour notre propre destin.
En Grande-Bretagne, la police a arrêté un homme de 19 ans en rapport avec l'attaque terroriste de Manchester qui a fait 22 morts la semaine dernière. Auparavant, un homme de 25 ans avait été interpellé et sa maison fouillée. 13 hommes sont détenus depuis l'attaque commise lundi dernier par Salman Abedi de Manchester après un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande.
Le ministre américain de la Sécurité intérieure, John Kelly, a déclaré hier qu'il examinait la possibilité d'interdire les ordinateurs portables en cabine sur tous les vols à destination en provenance des États-Unis. Selon lui, il y a des signes d'une menace réelle contre l'aviation civile avec ce genre d'appareils électroniques.
Intervenant hier sur Fox News, M. Kelly a expliqué que c'est vraiment l'obsession des terroristes, abattre un avion en vol, particulièrement un avion américain bondé d'Américains à bord. Le 21 mars, les autorités américaines avaient interdit aux passagers en provenance de 10 aéroports du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord de transporter en cabine ordinateurs portables, tablettes et autres appareils électroniques d'une taille supérieure à celle d'un téléphone portable.
La Corée du Nord a procédé tôt ce matin à un autre tir de missile balistique à quelques jours seulement après que le G7 a demandé à Pyongyang de renoncer à ses ambitions nucléaires. Selon le commandement américain du Pacifique, le missile balistique de courte portée a été suivi durant 6 minutes sur les radars jusqu'à ce qu'il tombe en mer du Japon.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, Jacques Aristide.
La Banque mondiale va octroyer 300 millions de dollars au Sénégal pour le projet pilote de bus rapide sur voie réservée à Dakar ou le BRT. Il permettra de réduire de près de moitié la durée des trajets dans les transports publics entre la préfecture de Guédiawaï et la gare routière de Petersen aux heures de pointe en transportant environ 300 000 passagers par jour. Pour le ministre du Transport, Mansour Kané, le BRT améliorera grandement les trajets dans l'agglomération dakaroise avec ses 3,5 millions d'habitants. L'Ouganda et la Tanzanie viennent de signer un accord sur un projet d'oléoduc de 3,55 milliards de dollars. Ce pacte intervient après que Kampala a choisi Dar es Salaam au lieu de Nairobi pour faire transiter sa production de pétrole brut dans 3 ans. Le géant français des hydrocarbures Total, propriétaire des champs pétrolifères ougandais avec le chinois Sinohok et le britannique Tullow, s'est dit disposé à financer la construction du pipeline. Nouveau volet de l'enquête sur Petrobras dans le cadre de l'acquisition de puits de pétrole au Bénin. Arrestation au Brésil de Pedro Bastos, ex-dirigeant du géant pétrolier, et de José dos Santos, ex-propriétaire de la banque BVA. Ils sont soupçonnés d'avoir reçu 5,5 millions de dollars de pots de vin de la compagnie béninoise des hydrocarbures. Au total, 6 personnes auraient reçu des dessous de table à hauteur de 7 millions de dollars de 2011 à 2014 sur des comptes en Suisse et aux États-Unis.
À présent, les sports avec Élisée Ongpati. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
À Cannes des moins de 17 ans, le Mali conserve son titre devant le Ghana.
Comme en 2015 au Niger, le Mali vient à nouveau d'être sacré champion d'Afrique au Gabon. Les jeunes Maliens ont battu en finale le Ghana 1-0, une réalisation de Mamadou Samake. C'est donc un doublé historique pour ce pays qui rejoint le cercle très restreint des nations ayant soulevé 2 fois ce trophée. Pour la petite finale, la Guinée s'impose devant le Niger 3-1 et termine à la 3e place. Rappelons que ces 4 équipes sont qualifiées pour le prochain mondial de la catégorie qui aura lieu en Inde.
Football toujours avec le mondial des moins de 20 ans et l'Afrique aura 2 représentants en 8e de finale.
Oui, et il s'agit du Sénégal et de la Zambie. Les Sénégalais ont obtenu leur qualification suite à leur match nul et blanc contre l'Équateur. De même pour les champions d'Afrique zambiens malgré leur défaite 1-0 face au Costa Rica. Précisons l'élimination de la Guinée et de l'Afrique du Sud qui rentrent à la maison avec 1 point chacun.
Athlétisme à présent avec la Réunion de Gênes.
Une compétition qui a vu la bonne prestation des Africains. L'Ivoirienne Muriel Aouré a terminé 2e du 100 mètres dans le chrono de 10 secondes 96 centièmes. Et puis la Sud-Africaine Caster Semenya remporte elle haut les mains le 800 mètres.
Élisée au Bénin, la Fédération béninoise de cyclisme a un nouveau président.
Oui Idrissa, et c'est Paul Razoumain qui a été élu par ses pairs pour les 4 prochaines années. Ceci à travers une assemblée générale qui s'est tenue en présence de plusieurs avertis du vélo et du représentant du ministère des Sports. Razoumain est donc sorti vainqueur avec 4 voix devant le seul concurrent Lucien Guizzo qui a rassemblé 3. Notons qu'après avoir assumé cette responsabilité pendant 15 ans, Rétis Dagba, président sortant, a retiré sa candidature.
En Algérie, le comité olympique national reconduit Mustapha Beraf pour un 5e mandat.
Exactement, le président sortant, vainqueur du scrutin avec 80 voix contre 45 pour son challenger, le président de la fédération d'athlétisme, Abdelhakim Dib. Une victoire large, mais dans une ambiance tendue. Le 3e candidat, Sid Ali Lebib, s'est retiré de la course en dénonçant des interférences de l'administration centrale des sports. Une assemblée générale élective que certains membres du COA avaient tenté de faire reporter, dont le résultat est contesté. Abdelhakim Dim a annoncé son intention de poser réclamation. Il faut signaler aussi que 6 membres du bureau exécutif à peine élus ont démissionné pour protester contre les conditions dans lesquelles s'est tenu le scrutin.
Un mot de tennis avec Roland Garros.
Oui, le coup d'envoi de la 15e de terre battue du côté de la porte d'Auteuil et premier échange à venir avec un duel africain chez les hommes entre Kevin Anderson et Marek Jaziri.
Le tirage au sort de l'afro-basket féminin a eu lieu le week-end à Bamako.
Résultat, le pays organisateur, le Mali, jouera dans la poule A avec le finaliste de l'Afro-Basket 2015, le Cameroun, un groupe complété par la Tunisie, la Côte d'Ivoire et l'Angola. Quant aux tenantes du titre sénégalaise, elles évolueront dans la poule B en compagnie du troisième de la dernière édition de cette compétition, le Nigeria. Les Égyptiennes, les Guinéennes et les Mozambicaines complètent ce groupe, l'Afro-Basket féminin. C'est du 18 au 27 août prochain à Bamako, au Mali.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, désarroi des cacaoculteurs issus des écoles paysannes du pays, le prix du cacao, comme on le sait, a chuté sur le marché mondial, ce qui n'est pas de nature à encourager certains d'entre eux, par exemple dans la localité d'Elig Mfomo, à 60 km environ de Yaoundé. Et pourtant, ceux-ci sont engagés dans un programme agricole visant à produire désormais au Cameroun un cacao de qualité et qui attire cependant des investisseurs malgré le désarroi actuel. Reportage dans deux villages concernés avec notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Juntap.
La création de 34 écoles paysannes dans la zone a contribué aux bonnes pratiques agricoles ici. Des écoles qui ont aussi ouvert leurs portes aux femmes. Odile Nkoussa est une veuve. Elle y a fait ses classes et sa plantation cacaoyère est présentée aujourd'hui comme un laboratoire de qualité dans son village à Tala 2.
Notre formateur nous avait appris à rajeunir le champ. Quand une fille de cacaoyère est déjà très vieille et quand elle fait sortir les gourmands, et j'ai aussi pris la méthode de prendre les cabosses dans ce champ, faire la pépinière et planter comme vous le voyez.
Vous récoltez combien de sacs de cacao ici?
Une année, je récolte souvent plus d'une tonne.
Sur l'ensemble du territoire national, près de 800 écoles paysannes d'apprentissage de bonnes pratiques agricoles assistent les cacaoculteurs. Objectif, changer la mauvaise réputation autour du cacao camerounais. Comme le confirme André-Marie Assina Elouma, coordonnateur national du programme d'appui à la gestion de la qualité de la production des filières café-cacao.
La chaîne qui va de la cabosse qui est récoltée jusqu'au sac qui va dans le marché a beaucoup de problèmes. On a de mauvaises réputations qu'il y a les odeurs de fumée, il y a les odeurs de goudron, il y a les odeurs de fermentation. On peut créer une crème de cacao qui reflète les standards international de qualité. Et on a des partenaires qui sont prêts à le prendre. On a amélioré le budget du projet cette année pour qu'on puisse vous doter en équipement pour ces récoltes.
Il reste que le rapport qualité-prix du cacao ne suit toujours pas. De quoi laisser les cacaoculteurs de la zone dans le désarroi et face aux coxeurs impitoyables.
Il y a des exportateurs qui ont des coxeurs qui leur donne de l'argent pour venir ramasser notre cacao.
Lorsque le coxeur se présente devant toi, tu as peut-être un 5 sacs. Tes enfants doivent aller à l'école. Tu n'as pas d'autre choix.
Justement, la visite des investisseurs étrangers dans ces bassins de production de cacao de qualité visait à donner aux cacaoculteurs la conduite à tenir dans le contexte actuel où le prix du cacao est à la baisse sur le marché mondial. Narcisse Olinga, sous-directeur des échanges extérieurs au ministère du Commerce du Cameroun.
Vous serez rémunéré à un prix au-delà de ceux qui ne font pas la qualité. C'est pour cela que nous sommes ici avec ces investisseurs qui sont justement à la recherche de ce produit de bonne qualité.
À l'horizon 2020, le Cameroun compte produire 600 000 tonnes de cacao. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, le paludisme a fait dans la province du Nord Kivu 900 morts, surtout chez les enfants de moins de 5 ans, rien que pour le premier trimestre de cette année. Le gouvernement congolais vient d'élaborer un plan stratégique pour réduire sensiblement le paludisme, mais il doit relever de grands défis dans sa campagne de sensibilisation, nous dit de Goma, capitale du Nord Kivu, notre correspondant Charlie Kasereka.
La médecine interne de l'hôpital provincial, comme dans différents centres de santé du Nord Kivu, les nouveaux cas ne cessent d'arriver. Sandra, 25 ans, revient de la consultation. Elle souffre du paludisme. Selon les résultats du labo qui vient de lui communiquer son médecin, elle avoue ne pas être fan de la moustiquaire.
Oui, je fais les labos. Il m'a dit vraiment que je suis malade. C'est très grave, vraiment. Peut-être moi, je l'ai attrapé parce que je ne dors pas sur le moustiquaire. Je n'aime pas vraiment le moustiquaire. Ça gêne beaucoup.
Sandra n'est pas la seule. Monsieur Damien est sous perfusion depuis 4 jours. Alors qu'il a eu des symptômes depuis 2 semaines, il promet cette fois voici de dormir sous la moustiquaire une fois quitté les lits de l'hôpital.
Quand donc Milgaf hôpital, il est après donc ça ne voit que ma articulation de ma katika, ni une grippe et tout comme d'habitude. Ni les plumes, c'est comment on va quand on va à la pharmacie, docteur maison, mais ni quoi n'avoir puis ça ne va pas avec mal.
Donc pourquoi alors la maladie persiste dans la région? Monsieur Lamberto, médecin au centre hospitalier Virunga ici à Goma, pense ceci.
Oui, le paludisme c'est une réalité dans notre province. Souvent les cibles, ça, les femmes enceintes et les enfants de l'âge inférieur à 5 ans. Auprès des femmes enceintes, nous donnons l'éducation sanitaire concernant l'assainissement du milieu, l'usage correct des moustiquaires imprégnés d'insecticides que nous donnons même gratuitement. Et puis, tout faire pour que la chambre soit correctement aérée.
Réduire sensiblement dans les 5 prochaines années les cas et les risques liés au paludisme, et c'est le grand combat que mène la RDC à travers son plan stratégique et des luttes contre le paludisme qui vient d'être élaboré. Docteur Demson Moussondoli coordonne les activités du programme national de lutte contre le paludisme division du Nord Kivu.
Le paludisme reste la première cause de consultation et la première cause de morbidité, donc les décès, les morts aussi dans la province du Nord Kivu. Nous sommes environ dans les 130 000 cas maintenant. Car par rapport aux décès, nous sommes environ 900 cas et donc c'est encore un problème de santé publique. Le gouvernement s'engage dans la prévention, mais il s'engage aussi dans les curatifs avec l'appui de ses partenaires.
Si dans les milieux urbains, l'ignorance et la négligence font encore des victimes du paludisme, les milieux ruraux restent encore les plus touchés. La sensibilisation sur la bonne utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides, l'assainissement du milieu ainsi que la prévention pour les femmes enceintes sont là les grands défis qui restent à relever dans la lutte de cette maladie qui remplit encore les lits des hôpitaux ici au Nord Kivu et dont une personne sur 5 est en serait morte en RDC. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Burkina Faso, les mouvements de la société civile se mobilisent pour dénoncer la gouvernance du régime en place. La coalition Bori-Bana veut convaincre le gouvernement du président Roch Marc Christian Kabore de prendre une trajectoire qui tienne compte, je cite, des aspirations des populations. Cette coalition vient d'être mise sur pied par Hervé Ouattara, Safietou Lopez et Marcel Tonkoano, trois leaders de la société civile, nous dit de Ouagadougou notre correspondant Issa Napon.
Exécution de l'hymne national, une maison du peuple aux trois quarts pleins, des membres d'une coalition gonflée à bloc, tout y était pour les leaders des organisations de la société civile que sont le mouvement du 21 avril M21 et l'APDC, Association pour la promotion de la démocratie et de la participation citoyenne, qui lancent ainsi leur nouvelle coalition Bori-Bana.
Les politiciens arnaqueurs, les cambrioleurs politiques,
ces leaders déchantent aujourd'hui sur la conduite des affaires de l'État par leurs anciens camarades de lutte et des promesses non tenues, s'insurge notamment un des membres de la coalition, Marcel Tonkoano.
Que ceux qui nous ont flattés, qu'ils peuvent nous trouver à manger, qu'ils peuvent nous trouver de l'emploi, s'ils ne peuvent plus le faire, qu'ils le disent clairement. Notre camp s'appelle le peuple. Ceux qui nous gouvernent, ce qu'on dit des vieux, tant qu'on ne les bouscule pas, nous n'allons pas arriver. Il faut bousculer pour avoir de la place. Norbert Zongo a dit, on ne demande pas la parole, on arrache la parole.
Tour à tour, chacun des trois leaders va égriner ce qu'ils ont tous qualifié de dérive, de nature à saper l'esprit de l'insurrection, détournement de données publiques, incivisme et faiblesse de l'autorité de l'État, toute une litanie de désillusions que pointe la porte-parole de la coalition, Safiatou Lopez Zongo.
Nos dirigeants n'ont plus en tête l'esprit de l'insurrection populaire qui devrait les guider vers la mise en œuvre de bonnes politiques publiques. Nous rappelons à nos dirigeants que notre peuple s'est battu pour plus d'équité, de liberté et de justice sociale. Raison pour laquelle nous interpellons le président du FASO afin qu'il prenne toutes ses responsabilités face à la situation du pays. Notre peuple a besoin de réformes courageuses qui peuvent améliorer ses conditions de vie actuelles.
Un meeting qui aurait vu des tentatives de déstabilisation provenant des cercles du pouvoir rappelle la coalition et face auquel s'emporte Hervé Ouattara, le leader du CAR, citoyen africain pour la Renaissance.
Des CAR ont été interceptés. Ils ont demandé à certains CAR de vider ceux qui sont là-dedans. Ils ont saisi des jeunes qui venaient à notre rencontre d'aujourd'hui pour leur signifier que nous voulons créer un parti politique pour débarquer le président Roch Marc Christian Kabore, un président démocratiquement élu. Nous avons dit, avant tout, nous sommes des jeunes conscients qui sont soucieux et respectueux des lois et des textes de notre pays, dont nous ne sommes pas des barbares. Une façon pour dire qu'à un moment, à une période donnée, lorsqu'on sent qu'on parle et que ce que nous disons n'est pas pris en compte, et qu'au pire, c'est balayé du revers de la main, à un moment donné, il faut tenir un langage qui met tout le monde au pas.
Nous sommes certes loin d'un remake de ce bras de fer qui avait opposé le pouvoir et la société civile avant la chute du régime de Blaise Compaoré, mais vu le ton de la coalition, cela reste sans doute l'un des avertissements les plus sérieux donnés par ces mouvements au président Roch Kabore. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Non sans rapport avec le Burkina, le festival Ciné Droit Libre qui vient de prendre fin ce week-end à Niamey au Niger. Il s'agit d'une plateforme de promotion des droits humains et de la liberté d'expression à travers le cinéma, la musique et l'humour. L'édition de Niamey avait pour thématique centrale la lutte contre l'extrémisme violent. Reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Le festival Ciné Droit Libre est une initiative des réalisateurs burkinabés du film sur le journaliste Norbert Zongo assassiné en 1998. Abdoulaye Diallo en fait partie.
Ce film a eu un succès au niveau mondial, il est montré dans plusieurs festivals, mais au Burkina Faso, impossible de le voir. Aucune chaîne de télé, aucune salle. Et donc ça nous a amené à développer beaucoup d'initiatives parce qu'on n'a pas croisé les bras. Voilà, ils ont censuré un film et on les a donné la bonne réponse. Ils ont récolté un festival de films. C'est comme ça que nous avons créé Ciné Droit Libre pour répondre à cette question en disant si notre film a un problème, c'est qu'il y a plusieurs autres films aussi qui ont des soucis. Pourtant, ces films posent des problèmes réels de la société, posent des problèmes réels de démocratie, de droits de l'homme, de liberté d'expression, et ils doivent être vus. Il faut créer un cadre où ils vont être vus. C'est comme ça que nous avons créé le festival, qui a commencé petit et qui est devenu aujourd'hui une grosse plateforme qui est présente maintenant dans 6 pays en Afrique de l'Ouest.
À Niamey, la thématique du festival a porté sur l'extrémisme violent. C'est ainsi que sur les 3 jours qu'il a duré, des discussions et échanges, un géant concert de l'artiste burkinabé Smokey et bien sûr des projections de films en lien avec le thème ont été organisées. Le festival a suscité un engouement réel chez les Nigériens, comme El Hadj Souleymane Mahamadou, particulièrement intéressé par le film sur l'insurrection populaire de 2014 au Burkina Faso et celui sur les origines de la secte Boko Haram.
Voilà deux versions de l'extrémisme. La révolution burkinabé, qui est l'expression de la volonté populaire, en tout cas de conquérir sa liberté, ses droits, et Boko Haram, qui est une expression d'une violence véritablement, en regardant l'historique, effectivement, il est même biaisé, déformé, parce que au temps de Mohamed Youssouf, on voit un discours véritablement religieux où il était un peu la colombe de trucs. Donc, il est arrivé à éviter la violence, mais aujourd'hui, c'est que Boko Haram, en tout cas, c'est autre chose. C'est la violence sauvage, aveugle. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Ça permet aux gens de voir les différentes facettes de la violence. C'est en montrant effectivement aux gens les différentes facettes en tout cas de la violence que de se rendre compte que véritablement rien ne vaut la paix.
Les promoteurs du festival promettent de revenir à Niamey, mais la prochaine édition de Ciné Droit Libre se tiendra en Mauritanie, toujours sur le thème de l'extrémisme violent. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique. 1, 2, 3.
happening now.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour la mise en onde et le suivi de l'actualité. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.